BFM, midi 15h, le 12-15 et du Chevrier.
Il a été pendant 30 ans magistrat, il a été procureur de la République de Paris, président de chambre à la Cour de cassation, il a été aussi le directeur de cabinet d'Henri Nallet. On lui doit la démission en poste de ministre Faustin, de son poste de ministre de l'économie. Jean-Pierre Nattiac, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Rendez-nous la justice », un haut magistrat parle, et c'est vrai que vous avez occupé les plus hauts postes de magistrature, et un livre du reste est préfacé par Guy Canivet et publié aux éditions Jacob Duvernay. Jean-Pierre Nattiac, lorsque vous voyez que Michel Alliot-Marie a été entendu 12 heures par les juges d'instruction dans le cadre de l'affaire Kerstrin, vous vous dites que la justice justement est rendue?
C'est un peu long d'abord, 12 heures.
Oui, c'est un peu long, vous avez vous expliquez 12 heures.
C'est un peu long pour les instructions aussi.
Oui, surtout pour le greffier peut-être.
Comment j'explique? Je pense que ça fait partie tout de même de certaines dérives de la justice, effectivement. C'est trop long.
Oui. Trop long, oui.
C'est trop long, oui, mais vraiment, même sur le plan de la capacité de concentration, c'est trop long.
On essaye, en fait, quelque part, à viser le témoin, ou alors il y a un aspect symbolique et politique, non, hein, le fait d'entendre 12 heures le ministre de la Défense, bon, c'est sûr qu'on se dit, ben, tiens, qu'est-ce qu'elle avait à dire, hein.
Alors, c'est aussi un peu, pour ne pas la déranger, probablement, à deux reprises, on aurait pu couper et puis la faire revenir, mais on n'a pas voulu, parce qu'elle est occupée, c'est un ministre. Parce que, il y a peut-être un excès de moyens mis pour certaines affaires.
Mmh. Ah, c'est là, c'est l'affaire Kerstrin.
Oui, l'affaire Kerstrin et quelques autres aussi. Je crois que la justice se mobilise des fois un peu trop.
Alors, vous parliez à l'instant de dérive de la justice, c'est peut-être un des effets. Lorsque on voit bien que vous avez été procureur général de Paris, on voit bien que là, il y a un peu, je sais pas si c'est un divorce, enfin, en tous les cas, un désaccord entre les juges qui mènent l'instruction sur l'affaire Kerstrin et puis le parquet de Paris, notamment sur l'audition de Ligne de Villepin, s'il doit être témoin assisté ou pas, etc. Vous, comment vous vivez ça? Comment vous analysez ce qui se passe?
Ah, j'analyse une dérive. À la fois une dérive et une mise en cause tout à fait excessive de la justice depuis que dans les années 80, les juges se sont intéressés à un certain nombre d'affaires qui concernaient les puissances politiques, économiques, financières, voire médiatiques.
Oui.
Et je pense qu'il y a eu un excès des moyens mis en place et en même temps, il y a eu une espèce d'attitude de rejet et de recherche de solutions pour mettre en cause la justice et pour lui couper un peu les ailes.
Mais vous, pourtant, vous avez tous les moyens qu'il fallait. Alors, c'est justement, je parlais là, bon, l'affaire avec concerné le ministre Faustin, c'est qu'il a dû démissionner de son poste du ministère de l'économie. Vous avez aussi été dans ces affaires très médiatiques.
Oui, j'ai été pris par une mécanisme, d'abord la démission, si vous voulez, on parle de la démission de ministre Faustin. Moi,
j'ai tout à fait regretté qu'il démissionne. Ah, oui. Oui, mais
parce que c'était la politique dite la politique Balladur, mais une politique est absurde, parce que...
Jurisprudence Balladur, on disait à l'époque.
Jurisprudence Balladur, mais c'est idiot, parce que la présomption d'innocence, c'est une fiction. Un homme qui est coupable, il le sait, il est dès le début. Un homme qui est innocent, il le sait depuis le début. Pourquoi il démissionnerait? Parce que lui, il sait bien, c'est coupable ou innocent. Ça n'a pas de sens.
Ah oui, d'accord, donc vous n'attendez pas à une telle démission.
Je ne m'attendais pas à une démission, je ne peux pas être terrorisé, on ne peut pas rechercher à partir d'indices de présomption, car au début c'est toujours ça, sous prétexte que les conséquences pourraient être une éventuelle démission. La justice, sinon, est complètement bloquée, elle est paralysée.
Jean-Pierre Nattiac, que vous connaissez évidemment pas tous les règles de cette affaire qui est extrêmement complexe, vous estimez que le ministre Faustin devrait être entendu en tant que témoin assisté ou pas?
Ah, je pense qu'il n'y a aucune raison que qui que ce soit refuse son témoignage, à quelque niveau que ce soit, dès lors que ça peut éclairer la justice.
Oui, mais témoin assisté ou seul simple témoin, c'est pas la même chose. Hein.
Bon, mon analyse, c'est que c'est la même chose. C'est qu'on a voulu justement éviter les mises en examen en assimilant le témoin assisté pour qu'il y ait des garanties et qu'il y ait des protections. Bon, ce n'est pas la doctrine de la Cour de cassation, donc il faut considérer ce qui a été obtenu pour le président de la République. Mais il n'empêche qu'entendre que la justice ne puisse pas accéder à certains éléments dont elle a besoin sous prétexte que telle ou telle personnalité serait au-delà, au-dessus, non, ce n'est pas souhaitable.
Oui. Alors, revenons à rendez-nous la justice, hein, parce que vous parlez bon, de votre itinéraire, de votre carrière, je dirais, vous êtes interrogé par un journaliste du Monde, hein, Yves Bordenave. Vous revenez vous insister autour de cette fameuse affaire d'Outreau, parce qu'à partir de là, toute la question de la réforme de la justice en découle. Vous avez été directeur de cabinet, donc d'Henri Nallet, qui a été le garde des Sceaux. Est-ce que vous avez le sentiment que toucher à la réforme, toucher la justice et aux juges d'instruction en France, c'est impossible?
Ben oui, c'est très difficile.
Ouais.
C'est très
pourquoi
difficile.
Alors, expliquez-nous. Vous revenez, vous, justement, sur tout ce qui est
assez. On n'a pas osé y toucher lorsque j'étais directeur de cabinet, ouais. Mais on avait un projet, simplement, qui était de réunir les sanctions pénales au chef-lieu du département, donc d'avoir des criminaux où il y aurait plus d'une instruction qu'il y en a plusieurs dans le même département. Rien que ça, déjà, est entraîné des crispations extraordinaires. Je crois que le personnage du juge d'instruction est un personnage un peu mythique, un peu symbolique. Mmh. Il plaît, il est fascinant parce que c'est un homme seul et que donc on peut le monter au pinacle. Lorsqu'il réussit, on peut compter à des gens en flèche lorsqu'il rate son affaire. Mais je crois que c'est une faiblesse de notre système. Très, très honnêtement, je suis tout à fait convaincu que la véritable réforme, c'est de remplacer le juge d'instruction actuelle par le procureur qui exercerait les fonctions et d'avoir un juge de l'instruction qui serait un magistrat du siège qui donnerait qui prendrait toutes les décisions qui portent atteinte à la liberté, qui sont importantes pour atteindre ou restriction de la liberté.
Oui, mais là, pourquoi tant de lever le bouclier? C'est un peu sur la même tendance que le juge Van Rundbeck, qui dit que supprimer carrément, enfin, aussi le juge d'instruction. Pourquoi il y a un tel corporatisme alors?
Van Rundbeck et bien d'autres.
On propose
le rapport de Smarty, etc. On propose de faire cette réforme. Pourquoi ne l'a pas été? Probablement parce qu'il y a une grande difficulté d'abord à faire des réformes en France et qu'il y a, dès lors qu'il y a une réforme, vous avez un certain nombre, je dirais, de ventre mou favorable à la réforme et une minorité qui est vent debout contre la réforme.
Je crois qu'à un instant, on parlait tout à l'heure de la charge sur le statut pénal du chef de l'État. Vous parlez de l'audition, vous dites que tout le monde doit être entendu, quel que soit son niveau de responsabilité. Vous aviez demandé, vous, justement, au dessiné Jacques Chirac, vous estimez que vous avez payé un peu pour ça?
Non, je n'ai pas payé. Très honnêtement, je n'ai pas payé. Je n'ai pas eu, d'ailleurs, j'avais aucune crainte. Mon âge, ma situation faisait que c'était pour moi une prise de position dans laquelle je n'ai jamais eu de soucis. D'ailleurs, je n'ai pas eu tellement de soucis dans ma carrière de
non,
carrière.
Ça, pas,
ça s'est passé, je dirais, un peu tout seul, mais là, véritablement, non. Je ne vais pas me poser en victime. J'ai été victime de rien du tout. Je n'ai rien payé du tout.
Non, mais lorsque vous dites tout à l'heure que les affaires deviennent, il y a trop de moyens concentrés à tout point de vue, notamment médiatiques, etc., comment est-ce qu'on pourrait faire, justement, dans les propositions que vous faites, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter toutes ces dérives? Elles existent forcément, elles sont inéluctables.
Qui éviter? Vous avez d'un côté les médias, c'est leur métier de parler des choses et de parler de ce qui plaît. On va leur reprocher. Vous avez du côté des magistrats, je crois que leur devoir, c'est de résister. C'est de résister, et c'est vrai que l'affaire Régine dont on parle, par exemple, je suis quand même, je trouve, choquant qu'il y ait autant d'éléments qui soient communiqués et qui soient dans la presse. Je ne rembourse pas la presse, mais je me dis que si la presse le fait, elle fait son boulot, mais ceux qui les alimentent, quelque part, ne font pas leur boulot, ne respectent pas leur obligation de secret et de réserve.
Comment mieux rendre la justice? On continue d'en parler dans un instant, après une très courte pause.
BFM, midi 15h, le 12-15, Edwige Chevrillon.
Vous êtes toujours en compagnie de Jean-Pierre Dimpillac pour son livre Rendez-nous la justice. Jean-Pierre Dimpillac, vous avez été, on l'a dit, procureur général de Paris, vous avez été présent devant la Cour de cassation, et puis vous avez été, en fait, à l'administration pénitentiaire, vous avez passé même 10 ans, comme sous-directeur, puis directeur, donc c'est dire si vous connaissez bien la prison, au cœur de toutes ces réformes de la justice, la détention provisoire, les conditions dans lesquelles le fait qu'en France a été longtemps condamné, parce que est-ce que la prison est aussi terrible que qu'on le dit en France ou pas, l'état de nos prisons?
Très honnêtement, la prison, elle est très différente sur la manière dont on l'a vu. J'ai vu des détenus dans des conditions psychologiques et épouvantables, et d'autres qui la supportaient bien,
mais globalement, l'état
global de la prison,
les prisons françaises sont pas dignes de la France.
Surtout les maisons d'arrêt sont incontestablement des prisons qui ne sont pas dignes de la France.
Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement...
Et malgré des efforts qui ont été faits, des progrès qui ont été faits, parce qu'il ne faut pas non plus nier des progrès qui ont été faits depuis des années. J'ai connu, moi, la première prison à Bourges sans chauffage et avec des tunnels. Je me souviens d'y être allé quand les jeunes magistrats, c'était assez épouvantable. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a deux manières. Ou construire des prisons à grands frais, ce qui coûte très cher, et ce qui a toujours des limites. Soit essayer d'utiliser un peu moins la prison. Mon point de vue, c'est qu'il faut utiliser un peu moins la prison.
Donc
il faut
recourir
un peu moins à la prison, et notamment à la détention provisoire. Là aussi, détention provisoire, il faudrait tout de même utiliser des moyens de contrôle, parce qu'il faut aussi des contrôles, quand on a des charges suffisantes et qui justifient qu'on prenne des précautions, il faut des contrôles, mais il faudrait, moi ça a toujours été mon point de vue, un milieu ouvert qui soit un peu plus musclé qu'il est actuellement.
Alors,
ça coûte beaucoup moins cher.
Qu'est-ce que vous appelez un milieu ouvert et qu'est-ce que vous appelez musclé?
Alors, le milieu ouvert, c'est les contrôles qui soient faits sur l'activité, sur la vie de quelqu'un, sans qu'il soit en prison. Par exemple, on interdit de sortir la nuit, eh bien, il s'agit que la nuit, on aille vérifier s'il est bien chez lui, et s'il n'est pas sorti pour boire et pour commettre des violences. Voilà, quelque chose de simple. Or, actuellement, vous n'avez aucun personnel qui est en mesure de faire ce contrôle. pour être sûr que rien ne se passe, qu'il n'y a pas réitération d'infraction, on le met en prison. Voilà. Alors, ça s'appelle musclé.
Est-ce qu'il y a des abus? Oui.
Est-ce qu'il y a des abus?
Clairement des abus sur la détention provisoire, et puis surtout, j'ai envie de dire, pour les jeunes.
Deux catégories d'abus. Vous avez deux catégories d'abus. Vous avez des abus qui sont des abus parce qu'il y a des concours de circonstances qui font qu'on met à tort en prison, et d'autres qui font des abus parce qu'il y a un manque de clairvoyance beaucoup plus fautif de la part de magistrats qui placent un peu rapidement en prison. Je me souviens, je vous donne un exemple, avoir entendu un jour un collègue auquel j'annonçais qu'un détenu s'était suicidé, et quand je lui ai dit c'était un juge d'instruction, je ne veux pas dire son nom, mais peu importe, c'est ancien, il m'a dit « Ah ben, c'est la vécue, j'hésitais, en fait, j'aurais pas dû le mettre en prison. » Bon, vous avez ce genre de situation, il faut quand même hésiter, hésiter quand on est en prison. La plupart des magistrats le font, mais certains peut-être. Mais surtout, vous avez actuellement l'absence de possibilité pour les juges d'instruction d'avoir des garanties d'un contrôle qui soit fait en milieu ouvert, qui soit plus musclé.
Oui. La réforme telle que la justice, telle qu'on en connaît pour l'instant les grandes lignes, sur la détention provisoire, ça va dans le bon sens?
Ben, écoutez, il y a de petites choses qui vont dans le bon sens, comme par exemple le débat tous les 6 mois, il y a l'enregistrement des gardes à vue. Ça, je trouve que c'est une bonne mesure, même si les
policiers
ne sont pas d'accord, ouais. Parce que la garde à vue...
Enfin, il y a les deux, parce qu'il y a l'enregistrement des gardes à vue, et puis il y a l'enregistrement aussi pour les...
Le volet des instructions est absurde, parce que ça ne sert à rien. Vous avez des avocats, vous avez le greffier qui est témoin, vous avez un certain nombre de personnes. Le temps que l'on passe dans un cabinet d'instruction, en dehors de ma mère...
Monsieur Marie
est quand même relativement bref habituellement, on n'y passe pas des nuits entières. La garde à vue, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus problématique. Il n'y a pas d'avocat. Ça se passe souvent dans les brigades, dans les commissariats, où il y a peu de policiers, et il peut y avoir des risques de dérapage. Et surtout, il y a très souvent des mises en cause ultérieures par les personnes gardées à vue des policiers, tout à fait injustifiées. Donc, à mon avis, c'est une protection pour les policiers comme pour les gardées à vue.
Ça, c'était sur la détention provisoire. Maintenant, sur le fonctionnement des prisons et les conditions de vie à l'intérieur des prisons, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire, je dirais, rapidement?
Oui, alors il y a des choses qu'on peut faire rapidement, mais c'est ce qui a été entrepris, mais non, rapidement. Non, pas rapidement. Non, ce qui a été entrepris et ce qu'il faut poursuivre, c'est la rénovation des prisons, voire la démolition de prisons pour la reconstruction. C'est comme les barres d'immeubles, c'est comme les logements. Il y a des rénovations qu'on peut faire, il y a d'autres situations, il faut savoir casser et reconstruire. Moi, je regarde qu'à Paris, par exemple, on n'est pas le projet à Paris. De faire une prison moderne.
Autre que la santé qui est quand même impressionnante.
Oui. Alors on veut rénover la santé, je doute qu'on arrive à rénover véritablement la santé. Par contre, c'est dommage qu'on n'ait plus de prison intramuros à Paris.
Oui. Alors rapidement, parce que malheureusement l'heure tourne, Jean-Pierre Natia, qu'il y a plein de choses dans votre livre, vous avez un volet sur la justice et qui passe à la justice européenne, parce qu'on sait que maintenant il y a des recours possibles. Est-ce que ça change, est-ce que ça peut changer vraiment le mode de fonctionnement? Il y a une affaire justement qui avait gagné devant la Cour européenne contre la justice française. Ça doit modifier plus les règles de fonctionnement?
Ah, énormément. L'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour des communautés européennes, ces justices européennes ont obligé la justice à changer. Le législateur aussi a changé, car ça a aussi beaucoup gêné le législateur. Donc des réformes ont été faites, je pense notamment aux écoutes interceptions téléphoniques, sous la pression des décisions des juridictions européennes. Ça a beaucoup changé. Avant les années 90, il n'y avait pratiquement aucune référence à la Cour, à la Convention européenne des droits de l'homme. Maintenant, c'est systématique, elle est évoquée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas là aussi maintenant un recours abusif, systématique et dans certains cas à ces juridictions, il n'empêche que c'est une pression et que des changements qui n'auraient pas pu être obtenus de l'intérieur se font maintenant dans de meilleures conditions parce qu'il y a la pression européenne.
Une toute petite réponse, je vous intéresse pour un grand sujet. Est-ce qu'il faut réformer l'école de la magistrature? Est-ce qu'il faut la faire disparaître, comme demande les
autres? Non, sûrement pas la faire disparaître. Je pense qu'il faut l'ouvrir dans tous les sens, ouvrir à d'autres que le recrutement actuel. Il faut la développer pour la formation continue et il faut sortir les magistrats qui sont formés pour les former pour partie dans d'autres écoles, dans d'autres lieux et pas uniquement à l'école administrative.
Merci de votre témoignage, Jean-Pierre Natia. Je rappelle que vous publiez Rendez-nous la justice aux magistrats qui parlent. Et c'est publié aux éditions Jacob Desarnais. Merci.
Au revoir.